Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries des hommes, le blog série de Libération. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un livre qui s'appelle « La question raciale dans les séries américaines », écrit par Olivier Estève et Sébastien Lefay. C'est un livre qui est paru le 30 octobre de cette année aux presses de Sciences Po. Et on y retrouve 8 analyses de scènes, chacune extraite d'une série américaine contemporaine, The Wire, Homeland, Oz, Les Sopranos, Orange is the New Black, Boss, Mad Men et Nip Tuck. C'est une étude à la fois sémiologique, sociologique, historique et esthétique qui décrypte la représentation du stéréotype racial dans une société américaine multiraciale. Alors pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir les deux auteurs de ce livre, Olivier Estève, maître de conférence en civilisation des pays anglophones à Lille 3. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Et Sébastien Lefay, maître de conférence en anglais à l'Université de Corse. Bonjour Sébastien.
Bonjour Benjamin.
Pour attaquer, on peut commencer par une première question sur le corpus de ce livre. On avait récemment étudié un livre qui s'appelait Des hommes tourmentés, un livre de Brett Martin qui revenait sur les grandes séries de l'âge d'or, ce qu'il considérait comme le troisième âge d'or américain. Et j'avais remarqué que dans ce livre, on avait uniquement des séries américaines du câble. Et là, c'est un petit peu le même constat que j'ai fait avec ce livre, donc La question raciale dans les séries américaines. Puisque donc on a 8 séries qui sont donc The Wire, Homeland, Oz, Les Sopranos, Orange is the New Black. Orange is the New Black qui est une série de Netflix, donc là on n'est pas sur le câble, on est sur de la SVOD, hein, la vidéo à la demande par abonnement. Mm-hmm. Boss, Mad Men et Nip Tuck. Donc 8 séries du câble américain. Donc tout simplement, Olivier, ma première question, ça sera de savoir pourquoi tout simplement avoir choisi uniquement des séries du câble et non... Également dans le lot, quelques séries de ce qu'on appelle les networks, c'est-à-dire les grandes chaînes américaines qui font finalement encore le plus d'audience, même si ça tend de plus en plus à changer.
Alors, il y a différentes raisons à cela. Je ne sais pas ce que Sébastien en dira, mais simplement de façon très concrète. Au départ, le livre, enfin la genèse du livre, si vous voulez, c'est l'intérêt qu'on a par rapport à ces différentes scènes dans le cadre d'études qui sont faites avec des étudiants en fait à l'université, étudiants qui pour la majorité d'entre eux connaissent pas les séries en fait dont on traite dans le bouquin, mais qui par contre connaissent souvent des séries qui sont très populaires et qu'on va voir sur TF1, M6, etc. Donc l'intérêt c'est vraiment de susciter la curiosité des étudiants au départ vis-à-vis de séries comme The Wire, The Sopranos, qui sont quand même assez largement méconnues d'un public étudiant, sauf s'il s'agit vraiment d'aficionados de séries. Donc d'une certaine manière, vraiment, ce qui était à l'origine du livre, c'est l'étude pédagogique, en fait, hein, le caractère vraiment didactique, associé effectivement à l'analyse de scènes spécifiques. Après, il y a une autre raison qui est plus éditoriale ou intellectuelle, ou les deux, qui est que... une partie du défi en fait consistait à être capable d'avoir un texte d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pages sur une scène spécifique, une scène courte, et sans qu'il y ait de redite évidente et sans qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler de la surinterprétation, au sens où on irait chercher différentes significations dans une scène alors que ces significations là ne seraient pas nécessairement présentes au départ. Autrement dit, dans une série qui serait pas une série du câble et sans faire de jugement de valeur hâtif, il y a pas, me semble-t-il, une complexité qui soit vraiment à même d'inspirer effectivement une quinzaine ou une vingtaine de pages, quoi.
Oui, c'est effectivement. Alors pour bien préciser, donc on a en fait à chaque fois une analyse de scène, hein, comme vous l'avez dit, une quinzaine, vingtaine de pages, donc à la fois avec une approche esthétique, sociologique, on a tout un background historique, hein, pour bien recontextualiser la scène. Alors ma question portait notamment sur le fait qu'en introduction, vous expliquez que une telle approche serait peu cohérente si elle portait sur des objets ne rencontrant pas des taux d'audience suffisants. Faute d'un nombre de spectateurs importants, l'influence du point de vue véhiculé par la série ne saurait être que très relative, voire inexistante. Donc voilà, vous mettez bien finalement en perspective le fait que cette approche donc, que vous avez adoptée dans le livre peut fonctionner aussi parce que ces séries sont vues, et même très vues. Alors moi, je pensais notamment, Sébastien,
Oui.
à une série comme 24, par exemple, qui est vraiment le premier cas de figure qui me venait en tête, où là, évidemment, la question raciale. Alors là, je le précise que 24, vous l'abordez quand même, hein, par le biais de
Indirectement, oui.
Homeland indirectement. Donc il y a quand même toute une partie qui est, plusieurs pages qui portent sur cette série. Je pensais à d'autres séries comme Lost, comme Heroes, qui sont aussi des séries contemporaines qui abordent vraiment les questions raciales aussi de manière très importante.
Oui, le choix, nous l'avons effectué en fonction de la manière dont chaque série et chaque séquence même pose la question raciale. Donc nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait une complémentarité entre les manières d'aborder ce problème épineux, entre le poids de l'appel à un degré de connaissance historique ou sociologique de la part du spectateur et une universalité dans l'approche visuelle du problème. Et de ce fait-là, nous sommes interrogés systématiquement sur l'interaction entre la manière de présenter la question raciale dans les séries et l'impact qu'on pouvait en tirer ou en observer dans la réalité. D'où ce choix de série qui rencontre un public suffisant. C'est-à-dire que la logique qui sous-tend notre propos est que on cherche à faire bouger les choses en posant cette question-là et que c'est quasiment une obligation. Alors, si je peux continuer un tout petit peu pour revenir à la question des séries du câble par rapport aux séries des networks, se pose, est en train de se poser chez les universitaires qui travaillent sur les séries, la question de la définition d'une série de qualité. Et on se rend compte que c'est un problème extrêmement épineux qui ne se réduit pas à une classification un tout petit peu arbitraire entre séries de plus haute qualité qui seraient diffusées sur le câble et séries de tout venant, hein, dirais-je, en prenant toutes les précautions possibles, qui seraient celles qui sont diffusées sur les séries. Maintenant, on est quand même obligé de constater, je crois, que on observe une audace, en particulier lorsqu'on aborde des questions qui sont forcément épineuses concernant les États-Unis. On observe, je crois, hein, une audace supplémentaire pour les séries ou dans les séries qui sont diffusées sur les chaînes du câble ou à la demande. Je crois qu'on peut attribuer cette audace supplémentaire à la plus grande marge de manœuvre qui est parfois laissée aux scénaristes et aux showrunners. Maintenant, il y a des cas évidemment en particulier, je ne sais pas si on peut dire qu'ils font figure d'exception, mais il y a des cas particuliers de différenciation des produits au sein d'un même réseau qui peut avoir des ramifications câblées ou sur Internet. Je pense à Fox en particulier, qui possède la chaîne FX, hein, qui est donc câblée. Et si on fait une brève étude comparative entre les types de séries qui sont diffusées sur le réseau global et sur les chaînes câblées, on se rend compte que les plus osées, celles qui abordent la question raciale de manière la plus frontale, sont assez clairement celles qui sont diffusées sur le câble, hein, en particulier. FX diffuse, alors c'est pas vraiment une série, même si c'est assez difficile à mettre dans une catégorie parce que c'est un produit un petit peu hybride entre série, télé-réalité et show comique de provocation, mais Allergy Resurrection, qui est une ressuscité, une continuation des programmes de Allergy qui ont été diffusés à la télé britannique puis à la télé américaine, ça passe sur FX et c'est l'un des programmes qui aborde vraiment la question raciale de la manière la plus perturbante directement pour les personnes qui sont interviewées et pour les spectateurs. Donc on ne peut pas se contenter, hein, de dire que seules les chaînes du câble pardon, abordent la question de manière directe et susceptible de faire bouger les mentalités.
On a vu hein, des séries comme Urgence, 24, on l'a dit, voilà, ce sont quand même des séries qui ont abordé ces questions, mais évidemment avec moins de marge de liberté, moins de marge de manœuvre, comme vous l'avez dit. Alors venons-en peut-être au contenu même et au propos du livre, notamment donc une question sur la question des stéréotypes, hein, qui est vraiment abordée de manière frontale dans ce livre. Alors si on prend le corpus des différentes séries abordées, j'ai noté évidemment comme point commun que chacune de ces séries s'appuyait sur de forts stéréotypes hein, très ancrés. Donc dans The Wire, on a le stéréotype de l'homme blanc qui va être plus effrayé par un noir, qui va se retrouver en bas de l'échelle, qui va secouer son échelle et qui va le menacer de l'agresser, donc, que par un homme blanc. Donc voilà, il y a ce stéréotype du noir plus effrayant en tant qu'agresseur et qui va être potentiellement plus dangereux. Dans Homeland, il y a le stéréotype aussi du musulman égal terroriste potentiel, hein, évidemment, c'est quelque chose qui est aussi très ancré dans la série. Dans Oz, le noir est un coupable apparaissant comme méritant la peine de mort, hein, évidemment, là aussi, grand stéréotype et raccourci. Dans Les Sopranos, on nous parle des Indiens, donc les Native Americans, qui sont des assistés, hein, donc là, ce sont les mafieux sopranos qui raillent les Indiens assistés, ce qui évidemment est une scène très ironique étant donné leur situation à eux. Dans Orange is the New Black, on a là un enfilement de clichés sur les Latinos, sur les Blancs et sur les Noirs, donc là, tout le monde y passe. Ensuite, vous étudiez une scène de boss où là, on retrouve un personnage de Latino vraiment sans scrupules qui parle, qui fait exprès de parler espagnol justement pour marquer son refus d'intégration. Donc là aussi, on est dans des stéréotypes. Et je terminerai avec les deux dernières séries. Mad Men, où là, on a une scène que vous analysez qui porte sur le blackface. Donc là, évidemment, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, notamment dans le cinéma. Hein. Et puis Nip Tuck, avec cette phrase, cette fameuse déclaration « Jesus was not black ». Voilà, donc finalement, toutes ces séries s'appuient sur des stéréotypes très ancrés, et c'est là que ces scènes sont très intéressantes, c'est qu'elles s'efforcent de les démonter, quoi, quelque part, ces stéréotypes. D'où ma question, Sébastien, finalement, est-ce que la fiction peut se passer de stéréotypes? Je veux dire par là, est-ce que le stéréotype n'a pas justement une fonction presque utilitaire, entre guillemets, pour tout scénariste qui peut s'appuyer dessus pour les démonter, quoi? S'il n'y avait plus de stéréotypes, finalement, il n'y aurait plus rien à démonter, quoi, en poussant les choses à l'extrême.
Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ce que vous affirmez. Hein, le stéréotype a une fonction narrative indéniable, mais nous avons essayé de montrer à travers les exemples que nous avons abordés que sa déconstruction, plus ou moins systématique, plus ou moins cynique, plus ou moins ironique, plus ou moins arrogante, pouvait elle aussi avoir une fonction narrative intéressante et amener à de nouvelles visions des choses, hein, si je puis dire. Donc évidemment, hein, la fiction aura toujours besoin de stéréotypes de méchants, mais lorsque par exemple, hein, et de gentils, évidemment, mais lorsque la question raciale intervient, vient se greffer un autre problème, qui est, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut encore, au cinéma américain ou dans les séries télévisées américaines, d'emblée présenter ou introduire un méchant stéréotypé noir? On sait que ça se fait de plus en plus difficilement depuis quelques années. On remarque quand même, par ailleurs, vous citiez tout à l'heure 24, que introduire un méchant stéréotypé, voire caricatural, musulman, ça pose, semble-t-il, beaucoup moins de problèmes, même si on voit arriver une série comme Homeland qui déconstruit, qui critique cette utilisation un petit peu caricaturale, surtout dans la première saison, que fait 24 du stéréotype du musulman, dont on a tendance à déduire, lorsqu'on le voit apparaître pour la première fois à l'image, que forcément il va à la mosquée et que forcément c'est pour rencontrer des collègues avec qui il prépare un attentat terroriste. Donc c'est une question épineuse, mais bon, ça fait quand même un certain temps qu'on baigne dans le postmodernisme et la manière parodique d'aborder les stéréotypes est maintenant ancrée dans les fictions contemporaines, hein, je crois.
Alors, Olivier, peut-être parlez-nous d'une scène en particulier, celle de The Wire. Dans cette scène que vous décryptez, on retrouve donc les deux junkies, un noir, Bubbles, et donc son pote blanc, Johnny, et il se retrouve en fait à organiser un stratagème avec un ouvrier en bâtiment qui est voilà, seul dans le quartier, et donc ils inventent un stratagème, à savoir que Bubbles, donc étant noir, se dit voilà, moi je vais aller faire semblant de l'agresser, et toi Johnny qui est blanc, tu vas venir à son secours et puis tu vas récupérer un bifton parce que le mec va en plus être secouru par un blanc, et entre blancs voilà, ils vont s'entendre, et finalement ce stratagème va nous permettre de récupérer de l'argent facilement sans mener l'agression à son terme. Alors, par rapport à cet exemple qui est très intéressant, je trouve, vous expliquez que c'est en devenant a posteriori donc spectateur de son propre engoncement dans un stéréotype qu'il récuse, donc je reviens sur cette idée de stéréotype, que Bubbles parvient à imaginer la manière de s'en débarrasser. Et d'ailleurs, il y a une mise en scène aussi très intéressante avec cette espèce de distance que prend Bubbles, avec un jeu sur le surcadrage. Finalement, il assiste à la scène qu'il a lui-même déclenchée et il se rend compte qu'il est là en plein stéréotype et que finalement, ça ne correspond pas à ce qu'il a envie d'être. Donc cette scène, elle est intéressante, Olivier, parce que justement, on voit très bien le mécanisme, le levier que constitue le stéréotype et de quelle manière finalement il est démonté. En même temps, il sert à remonter des choses qui ne plaisent pas du tout à ce personnage de Bubbles.
Oui, en fait, alors donc il valide ce stéréotype dans un but vraiment de marchandisation, en fait, hein. Il veut vraiment enfin, se faire de l'argent grâce donc à ce stéréotype sur les Noirs. Simplement, il le fait effectivement à contre-cœur, puisque lui, comme il le dit dès le départ, et je pense qu'en fait, quand on revoit The Wire, on voit très bien que c'est vraiment une des questions centrales qui est posée par la série et qui a rien à voir avec les stéréotypes, qui est celle du mouchardage, en fait. Puisqu'il commence par dire, voilà, non, ça sert à rien de se faire un peu d'argent comme ça, en faisant semblant d'être des crapules, et puis en faisant peur à cet homme en haut de l'échelle, puisque si l'on moucharde à la police, effectivement, grâce à ce lien qu'il a avec Kima Greggs, on peut se faire plus d'argent, et puis effectivement, il y a l'idée que le mouchardage lui-même est une sorte de enfin, correspond à une forme d'ascension sociale, quoi. À la fin de la scène, donc on ne le voit plus, donc il a quitté la scène, quoi, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que on suggère que on trouve un exemple du même type dans le film Théorème d'Archimède de Mehdi Sharef, là, en 85, où effectivement deux pickpockets. Donc l'un arabe, donc la scène se passe à Paris, hein, l'un arabe, donc Majid, et l'autre Patrick, exploitent exactement les mêmes stéréotypes à des fins identiques, au sens où effectivement Majid suggère donc à Patrick que non, c'est moi qui vais donc être pickpocket puisque je vais être plus effrayant étant arabe. Donc on a effectivement exactement la même structure dans The Wire. Et l'ironie du sort, finalement, dans le développement ultérieur de la série, c'est qu'effectivement, Bob's est un personnage extrêmement émouvant. Et quant à Johnny, effectivement, on pense à son sort tragique au moment, enfin, à la fin de la saison 3, quoi. Donc là, on a effectivement une sorte de commentaire un peu ironique sur cette marchandisation des stéréotypes qu'avait suggéré donc Bob's, quoi.
Et donc il a cette très belle phrase, hein, enfin cette très belle phrase, cette phrase qui est en tout cas lourde de sens, quand il dit voilà, avec l'homme blanc, c'est mieux que ce soit moi le méchant, comme ça le perturbe pas trop.
Ce qui est intéressant justement dans cette phrase, c'est que Bob lui-même, enfin, il empile des stéréotypes sur d'autres stéréotypes, puisqu'il part du principe que par définition, l'homme blanc qui est en face de lui et qu'il ne connaît pas, donc cet homme qui est en haut de l'échelle, lui-même est pétri stéréotypes, alors qu'en fait, bien évidemment, l'homme blanc étant en haut de l'échelle est extrêmement vulnérable, en plus il est seul, il n'est pas armé, donc de toute façon que l'agresseur potentiel en bas de l'échelle soit blanc ou soit noir, la menace sur son intégrité physique, elle est exactement la même, quoi. Donc ça, c'est
bon.
intéressant également.
Très brièvement, c'est un scénario. Le scénario se présente à eux, il est quasiment tout fait. Et donc, dans un premier temps, la question de l'utilisation en un but très pragmatique du stéréotype ne se pose pas. Sauf que, à la fin de la scène, on a le point de vue contraire, puisqu'on voit que Bob s'est rendu compte que, à long terme, entériner ce stéréotype, ça le desservait, même si à court terme, ça pouvait leur permettre à tous les deux de gagner de l'argent. Donc, c'est une scène qui réfléchit sur la nécessité ou non d'intégrer le stéréotype à un cadre narratif finalement, hein, puisqu'il y a une scénette à l'intérieur de la scène.
Exactement, ouais. C'est vrai que vous l'expliquez bien aussi par l'esthétique, hein, par la mise en scène de cette séquence où effectivement on voit qu'il y a vraiment une réflexivité, on peut même dire une auto-réflexivité sur ces questions-là.
We get paid more hooking up to my girl.
But that's cash money right there.
With the white man, I best be the bad guy. That way he ain't confused.
All right, meet me in the alley.
Fuck.
Alors, pour poursuivre justement sur ce sujet, Je prendrais un autre exemple qui, là, pour le coup, n'est pas issu du livre. J'ai souvenir d'une scène de Louis, hein, la série de Louis C.K. Dans la saison 2, il y a un épisode qui s'appelle Country Drive, dans lequel Louis emmène ses filles en Pennsylvanie rendre visite à sa grand-tante qui emploie de manière répétée le mot nigger, donc ce qui choque évidemment au plus haut point les filles et qui nous donne un exemple intéressant de, finalement, d'évolution des mœurs, quoi. Ce qui les choque, c'est que ce mot soit employé à leur époque, alors que peut-être qu'à l'époque où la grand-tante l'employait, ça avait en tout cas une portée différente. Voilà, c'est un autre exemple de stigmate qui est mis en avant. À propos de la série Homeland, vous expliquez finalement aussi une manière d'utiliser ces leviers, c'est que les personnages d'apparence arabe, je cite, hein, que l'on soupçonne de prime abord de mauvaises intentions, s'avèrent quasiment toujours innocents par la suite. Donc là, ce que vous mettez finalement en exergue, c'est qu'on a cet amalgame qui est bien présent, qui est utilisé par la série, mais finalement qui est retourné, quoi, pour employer un terme qui est utilisé dans la série Homeland. Donc là, encore une fois, on a cette espèce de... j'ai envie de parler d'arsenal de dénonciation narrative, c'est-à-dire que la série se sert et les scénaristes se servent de ces leviers pour atteindre leurs propos. Ma question, Olivier, ça serait, est-ce qu'il n'y a pas un risque, alors je me fais un petit peu l'avocat du diable, hein, vous me le permettrez, de vouloir trop moraliser une télévision, hein, donc coupable de, entre guillemets, stigmatiser, amalgamer. Voilà, est-ce qu'on risque pas d'aseptiser cette télévision à force de vouloir la rendre un petit peu trop lisse?
Bah, en fait, y a pas, c'est pas du tout notre intention. C'est-à-dire que si, au contraire, c'est-à-dire que bon, de toute façon, on n'a pas de notre but est simplement un but d'analyse de scènes spécifiques et de contextualisation historique et sociologique pour ma part, et puis d'analyse esthétique et filmique de la part de Sébastien. À ce titre-là, nos deux approches sont extrêmement complémentaires. Et effectivement, il n'y a pas du tout de enfin, je pense ne pas me tromper en disant qu'il n'y a pas un seul moment où il y a une dénonciation de quoi que ce soit, me semble-t-il, dans ce livre. Si je peux me permettre juste de revenir sur certains des éléments que vous avez évoqués s'agissant de Homeland, je pense qu'un une des vraies difficultés, en fait, de Homeland, c'est qu'en fait, à la fois, il y a une sorte de déconstruction, de mise à distance d'un certain nombre de stéréotypes vis-à-vis de la religion musulmane, notamment à travers des éléments extrêmement visuels, par exemple l'acte de prière, c'est-à-dire que lorsqu'on est non-musulman et qu'on voit un musulman en prière, compte tenu de tout un arrière-plan qui est celui du 11 septembre, et puis on peut remonter certains stéréotypes à la révolution iranienne, à la fin des années 70, l'acte de prière, les mouvements du corps, la position du corps, lorsqu'on est non-musulman, peuvent donner l'impression justement d'une sorte de dévotion absolument sans réserve au divin, et dans une société extrêmement sécularisée qui est la nôtre, et la société américaine est elle-même beaucoup plus sécularisée qu'on a tendance à le penser en France, on est tenté de considérer qu'effectivement c'est en soi une forme de fondamentalisme, d'intégrisme, enfin vous appelez ça comme vous voulez, quoi. Et effectivement, Homeland joue systématiquement sur cette tendance-là, notamment dans la scène qu'on décrypte. Et la difficulté, je pense qu'on fait référence dans le bouquin à une sorte de corde raide narrative, c'est qu'en fait, la série à la fois décortique, décrypte ces stéréotypes, mais en même temps, il s'avère que Brody est lui-même un terroriste potentiel, quoi. Alors que, effectivement, mais il n'est pas terroriste potentiel parce qu'il aurait été endoctriné, ou parce que effectivement on lui aurait lavé le cerveau, ou ce genre de choses, ou on lui aurait promis 72 vierges, ce qui renvoie à ce que Mark Sageman appelle la fameuse théorie de la testostérone, hein, simplement pour il est terroriste potentiel par véritable conviction personnelle, au lieu d'avoir une sorte de commentaire général sur certaines tendances inhérentes à l'islam ou certaines tendances qui seraient propre à tous les musulmans et ou à tous les arabes amalgamés, on place vraiment la focale sur un choix individuel qui repose sur son destin personnel et sur son expérience personnelle. Et ça, c'est très, très important.
Mais alors, Sébastien, pour pousser ma question, alors, évidemment, comme vous l'avez dit, hein, le livre, lui, ne prend pas position. Hein. Moi, j'ai un propos, là, une réflexion plus généraliste. Mmh. C'est vrai que j'ai parfois la sensation... d'un point de vue médiatique, d'un point de vue de tous les garde-fous qu'il peut y avoir, qu'on tend parfois à vouloir rendre les choses un petit peu lisses. Bon, là, c'est un sentiment un peu personnel. Mais c'est vrai que pour parler pour revenir sur ce que je disais sur Homeland, hein, je me demande même s'il n'y a pas le risque du coup qu'on ait l'effet inverse, c'est-à-dire que, bah, comme vous le dites, les personnages donc à qui on prête de mauvaises intentions finalement s'avèrent quasiment toujours innocents. Et dans 24, on a un petit peu la même chose, quoi. Finalement, souvent les personnages qu'on soupçonne de prime abord, on se rend compte que finalement c'est le gouvernement qui lui-même est infesté et corrompu, et que les vrais méchants ce sont les hommes du gouvernement américain. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça qu'ils n'osent plus aller au bout de leurs intentions, enfin au bout de leurs intentions, ou en tout cas au bout d'une histoire, justement parce qu'à cause de tous ces garde-fous, on va dire, bah, attention, là il faut surtout pas que ces personnages soient des terroristes avérés, sinon ça risque de poser beaucoup de problèmes.
Le risque dont vous parlez, je crois que c'est avant tout le risque d'être mal compris, mais lorsqu'on s'aventure à travailler autour du stéréotype ou à travailler au corps le stéréotype, c'est un risque que moralement quasiment, hein, je crois, on est obligé de prendre. Mais les exemples sont nombreux de mauvaises réceptions de scènes ou de moments d'œuvres de fiction qui au départ visaient à déconstruire des stéréotypes. Bon, je crois que le plus récent, je reviendrai sur la relation brièvement, hein, entre Homeland et 24 juste après, mais je crois que dans un contexte complètement différent, l'exemple le plus intéressant de récupération d'un travail existant de déconstruction du stéréotype, c'est la fameuse quenelle de Dieudonné, dont on sait qu'elle est issue du docteur Folamour de Kubrick, où elle entre dans le cadre d'une critique d'un comportement. Donc c'est quelque chose qu'on a caricaturé et qu'on a plaqué sur un contexte complètement différent pour nier le sens initial, qui est un sens polémique et qui est un sens extrêmement complexe. Alors le problème de Homeland, c'est que je crois que c'est une série qui, au moins dans sa première saison, s'inscrit en porte-à-faux par rapport à 24. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ressemblances, hein, si on reprend point par point, dans le traitement de la question du terroriste musulman. Hein, encore une fois, nous avons expliqué tout à l'heure l'amalgame qui pouvait être fait entre les deux. Et en faisant intervenir la surveillance, Homeland montre que des séries comme 24, mais également le phénomène de la société de surveillance, ont joué un rôle dans l'avènement d'une vision des choses qui tente à favoriser cette équation terroriste égale musulman. Et donc l'intérêt de Homeland, c'est de restituer tout un arrière-plan qui va motiver un choix qui est à la fois un choix personnel et un choix qui est dicté par un rejet de certains aspects de la politique étrangère américaine, pour redonner à l'utilisation du stéréotype une complexité qu'on a tendance à nier lorsque on l'utilise sans trop y réfléchir, ou lorsqu'on l'utilise à des fins d'économie narrative, hein, conformément au problème qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est un terrain forcément dangereux, c'est un terrain extrêmement glissant. On voit par exemple que quand Mad Men introduit quasiment à la demande des spectateurs, puisqu'il y avait eu pas mal de protestations dans certains journaux et sur Internet sur la censée non-présence des Noirs, ou non-présence suffisante des Noirs dans Mad Men. On sait que quand Mad Men, dans la saison 3, donc l'épisode que nous avons analysé, introduit une scène où Roger Sterling apparaît en blackface, Mad Men s'attire les foudres de tout un tas de critiques. Et donc cette scène, nous l'avons décortiquée pour montrer qu'on pouvait éventuellement mal la comprendre, qu'on pouvait également la comprendre comme une critique du fonctionnement du stéréotype et de la société de l'époque, hein, que décrit Mad Men. Mais l'intérêt de cette séquence, c'est qu'elle n'exclut ni l'une ni l'autre des interprétations. Et donc nous avons essayé de privilégier des moments que vous avez qualifiés de réflexifs tout à l'heure, qui comparent deux types d'utilisation du stéréotype. Et c'est en cela que la comparaison entre Homeland et 24 est particulièrement intéressante, hein, puisqu'il y a un échange d'idées entre les deux quasiment. Hein, il y a évidemment une différence d'époque.
Et c'est vrai que du coup, bah voilà, on peut se dire que ce sont quand même des séries très courageuse, moi j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant 24 comme en voyant aujourd'hui Homeland. Je trouve que c'est des séries qui osent beaucoup de choses, qu'on n'ose pas forcément dans d'autres fictions. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut les saluer.
J'abonderai à fond dans votre sens. C'est-à-dire que un des traits distinctifs, il y a un certain nombre de sujets d'études qui sont faites là-dessus. Un des traits distinctifs de ce qu'on appellera l'islamophobie, c'est précisément que celle-ci a pas nécessairement besoin d'être justifiée à coup d'arguments vraiment pragmatiques, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit de dire, enfin il suffit de tenir un certain nombre de propos négatifs vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis des musulmans en les mettant ensemble. On n'a pas besoin vraiment de justifier. Au moins, Edward Said, au moment de la révolution iranienne, notait déjà, donc à la fin des années 70, début des années 80, que le préjugé anti-musulman aux États-Unis n'avait pas besoin d'être justifié, contrairement à un certain nombre de préjugés, par exemple le préjugé contre les Noirs, quoi. Et donc, Homeland, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils se mettent effectivement à décrypter un certain nombre de stéréotypes qu'on vient d'évoquer, et le courage consiste vraiment à donner un coup de pied dans une fourmilière qui, normalement, est assez solide, compte tenu, effectivement, de cette absence de justification, si vous voulez, du stéréotype islamophobe, quoi. Je terminerai en précisant que les musulmans aux États-Unis, c'est même pas 1% de la population américaine. Autrement dit, si on tient un certain nombre de discours négatifs vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis de leur religion, on ne va pas s'attirer les foudres d'un grand nombre de personnes, contrairement effectivement aux Noirs ou encore plus aux Latinos, quoi. Donc là, il faut aussi, s'agissant en tout cas de la société américaine, de la réception d'un certain nombre de messages des séries donc dans la population américaine, il y a très simplement une question qui au départ est strictement démographique.
Oui, puis il y a aussi une critique courageuse de la justification de cette stigmatisation par une sorte d'impératif sécuritaire, hein, qui fait intervenir également tout un tas d'enjeux, pas forcément liés à la question raciale ou à la question des minorités.
Oui, oui, tout à fait. Et alors, juste un dernier point sur cet élément-là, le courage aussi consiste à placer la focale vraiment sur la politique étrangère américaine, quoi, sur vraiment le fait que voilà, ce qui constitue vraiment un terreau très très propice à l'extrémisme, voire au terrorisme, c'est effectivement une politique étrangère américaine qui est absolument désastreuse. C'est pas la nature supposée d'une religion X ou Y.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك الله أكبر.
Alors Sébastien, j'aimerais revenir sur une autre question. Dans l'introduction du livre, vous expliquez que les séries télévisées américaines reflètent une société en constante évolution. Aborder la question raciale est donc pour elle un passage obligé, qu'elle l'élude et on ne tarde pas à en faire le reproche à leur concepteur. Et par la suite, dans le livre, vous reprenez aussi des propos d'Éric Massé qui explique qu'à la télévision, une sous-représentation de tel ou tel groupe constitue une présomption sérieuse de discrimination. Alors, je voulais revenir avec vous sur ces propos et ça m'amène à demander finalement pourquoi on serait obligé, selon vous, d'aborder la question raciale dans une série américaine. Est-ce qu'il n'y a pas, à travers cette contrainte imposée, un risque donc d'imposer justement un cahier des charges? Et pour pousser la question encore plus loin, est-ce que c'est pas une autre forme de censure, quelque part, un principe de quota? Est-ce que finalement une série est obligée, notamment donc les séries américaines, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, d'aborder la question raciale?
Alors il y a deux aspects, je crois, qu'on peut évoquer pour répondre à cette question. Le premier, c'est celui du poids culturel et politique de ce qu'on appelle, par une mauvaise traduction en français, la discrimination positive, qui est en fait affirmative action aux États-Unis, qui est donc une politique qui consiste à donner des signes de reconnaissance à des minorités qui se sont, à juste titre, pendant longtemps estimés lésés par la société américaine. Donc il y a tout l'arrière-plan du politiquement correct, hein, qui est lié à cette politique de discrimination positive, donc, pour parler vite, qui fait que Je parlais tout à l'heure de terrain glissant. Les producteurs de séries sont, et les studios, hein, encore une fois, qui les financent dans certains cas, les chaînes, sont très, très. Ont conscience d'avancer en terrain miné, ont conscience de pouvoir susciter des réactions vives, voire de se priver par un faux pas de toute une partie des téléspectateurs potentiels. Et donc, on peut avoir l'impression que les séries parfois marchent sur des œufs. Alors l'autre aspect de la question, c'est plus purement celle d'un devoir de représentativité des séries dont nous avons, en particulier dans notre conclusion, critiqué quasiment l'ensemble des tenants et des aboutissants pour montrer que le seul devoir de représentativité des séries, s'il existe, concerne les seules séries qui ouvertement afficheraient une prétention d'analyse sociale, ce qui est le cas, j'espère que nous l'avons montré, des séries que nous avons étudiées dans le livre. Donc, socialement, la question est si importante qu'il est difficile de l'ignorer également. Maintenant, moi je travaille en ce moment sur les différences de traitement entre les personnages noirs hein, dans certaines séries télévisées américaines et les personnages qui appartiennent à d'autres minorités. J'ai remarqué de manière assez flagrante que on mais parfois un luxe de précaution pour les stéréotypes concernant les Noirs, alors que, par exemple, on pouvait encore allègrement utiliser des séries stéréotypes d'Indiens américains, Native Indians, Indian Americans, en plaquant sur eux tout un tas de clichés issus des westerns, par exemple. Et bon, il y a aussi tout un arrière-plan culturel qui est encore vivace, puisque la tradition du western a été réactivée par certaines séries. Mais voilà, on observe également que, pour le moment, le poids des attitudes politiquement correctes est effectif concernant les Noirs, dans un certain nombre de cas. Je parlais tout à l'heure de la quasi-impossibilité de faire figurer un méchant ouvertement noir, ou un noir ouvertement méchant, plutôt, devrais-je dire. Ça pose beaucoup moins de problèmes si c'est un latino, par exemple. Hein. L'exemple de Boss que nous analysons le montre assez bien.
Alors, Olivier, dans le prolongement de cette question, je voulais vous évoquer plusieurs petite polémique qui ont eu lieu dans récemment ou dans les années récentes. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas donc de Mad Men, hein, avec ce reproche qui a été fait à la série de ne pas représenter les Noirs. Et donc, d'ailleurs, dans la scène que vous analysez, on voit bien la manière brillante dont Matthew Weiner répond à cette critique. Donc là, il a vraiment répondu avec à propos. D'autres exemples, si vous vous souvenez, dans Friends, il y avait aussi cette polémique. Friends n'avait pas de personnage noir. Et d'ailleurs, ce qui peut avoir des conséquences assez absurdes, hein, parce que là, du coup, ils avaient intégré donc une actrice qui s'appelait Gabrielle Union. Ils avaient intégré cette actrice dans la saison 7 pour finalement on répond à cette critique, on intègre une actrice noire dans un épisode de la série. Un autre exemple plus récent, c'est celui d'une série qui s'appelle Bunheads, qui est une série de ABC Family, qui a été critiquée ouvertement par Shonda Rhimes. Shonda mm-hmm. Rhimes, hein, grande productrice noire américaine qui a Grey's Anatomy, Scandale, etc., qui occupe la case du jeudi soir sur ABC, et qui s'est permis de tweeter pour dire comment ça se fait, il n'y a aucune danseuse noire, vous n'avez pas pu en trouver une dans votre série, comment vous voulez que je me sente bien si je regarde la série avec mes enfants? Ça, c'est pas possible. Donc voilà, cette critique-là, moi personnellement, m'avait beaucoup choqué parce que il y avait des relents, je trouve, d'intolérance, et finalement, je reviens à cette idée de vouloir imposer les choses et presque parler de quotas. Un dernier exemple, c'est celui de Girls. Girls également, où on a reproché que la série se passe entre Brooklyn et Manhattan. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de noir dans cette série alors que ça ne représente pas du tout la réalité sociale? Bon voilà, ces différents exemples pour dire que. Moi, c'est une critique qui m'échappe dans le sens où on ne pose pas la question d'un point de vue diégétique. Lena Dunham a très bien répondu pour Girls, qu'elle racontait sa propre expérience. Alors après, est-ce que c'est vraiment la réalité brute? Est-ce que c'est ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a ressenti? Mais en tout cas, elle raconte une expérience, et donc dans cette expérience, il se trouve qu'il n'y a pas de personnage noir. Alors après, qu'on le conteste ou qu'on trouve ça dommage, ou moi je l'entends tout à fait, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement à dire voilà, il faut qu'il y ait des noirs, parce qu'après, où s'arrête la limite là-dedans, quoi? Si on dit qu'il faut tel nombre d'acteurs noirs, il faut qu'il y ait des latinos, il faut qu'il y ait des arabes, etc. Donc cette représentativité des séries, jusqu'où s'arrête-t-elle, Olivier?
Bon, enfin, il y a différents éléments dans ce que vous dites. D'une part, bon, le thème abordé par une série X ou Y va rendre plus ou moins nécessaire d'aborder la question raciale. Bon, il est évident qu'une série comme Boss, qui traite de la politique à Chicago, ne peut pas ne pas traiter cette question. Je pense que c'est encore plus net pour The Wire, bien évidemment, hein. Donc là, effectivement, il est impossible d'imaginer The Wire sans que la question raciale soit au centre de la série. Après, je pense qu'il y a également, donc, d'une part, effectivement, la thématique de la série. C'est une question aussi arithmétique, dans le sens où si une série a deux ou trois saisons et que sa thématique centrale n'est pas nécessairement censée lié à la question raciale, on ne peut pas faire le reproche à une série de ne pas traiter cette question. Si par contre la série se déroule sur 8 ou 9 ou 9 ou 10, ou 9 ou 10 saisons et que n'y apparaissent pas des noirs ou des membres de minorité, là on peut s'étonner un peu plus. Après, on peut aussi considérer, c'est tout à fait valide, que d'un point de vue sociologique, une série comme Friends, à partir du moment où elle reflète, je la connais très peu cette série, mais à partir du moment où elle reflète la vie quotidienne classe moyenne supérieure blanche, fatalement, ce sont des gens qui, dans leur parcours éducatif, dans leur parcours universitaire, après sans doute dans leur métier, ce sont des gens qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ne côtoient pas vraiment des Noirs. Pas parce qu'ils sont racistes, pas du tout, parce qu'effectivement, on a une sorte de quant à soi des classes moyennes supérieures, des classes supérieures blanches aux États-Unis. On peut considérer que Friends, d'une certaine manière, fait preuve de réalisme, quoi, si vous voulez.
Mais si je peux me permettre, Olivier, une sitcom comme Friends n'a pas vraiment forcément vocation au réalisme. Le réalisme, c'est une notion vraiment qu'on entend et qui revient beaucoup désormais dans la manière d'aborder les séries. Mais Friends, c'est une sitcom qui est censée déclencher le rire. C'est pas forcément un reflet de la société.
Là, si je peux me permettre, je pense que on peut comprendre une certaine frustration d'une partie du public, notamment aux membres de minorités ethniques, précisément parce qu'il y a tout un passé dans la représentation des minorités, notamment dans le cinéma hollywoodien. Bon, là je parle de choses que je maîtrise pas vraiment, mais une sorte d'invisibilisation donc des minorités qu'on voit clairement aussi en France, hein, à travers un certain cinéma populaire où effectivement Jamel est appelé Lucien dans Amélie Poulain, ce genre de choses. La frustration, voire l'agacement d'un certain nombre de minorités repose aussi sur toute cette histoire, effectivement, soit donc d'invisibilisation des minorités, soit de stéréotypes. Bon, il y a sans doute des douzaines de grands cinémas, de grands films classiques hollywoodiens où les Irlandais sont des policiers, des alcooliques, ou ce genre de choses, quoi. Et effectivement, je pense qu'il faut prendre en compte cet arrière-plan historique de représentation qui soit invisibilise. Soit peut-être pas stigmatise, mais alimente au moins les stéréotypes, quoi.
Et ça donne naissance à une forme d'exigence de représentativité ou de représentation à l'écran qui, dans certains cas, peut entraîner des réactions de rejet qui vont assez loin. C'est-à-dire que on ne se contente pas de boycotter et de demander à d'autres de boycotter par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais ça peut, dans certains cas, entraîner des plaintes en justice. Alors, j'ai pas connaissance de cas où des séries aient été incriminées, traînées devant les tribunaux pour non-inclusion de Noirs ou pour discrimination avérée, hein, d'une catégorie de la population, mais je sais que ce type d'affaires a d'ores et déjà concerné des émissions de télé-réalité, Bachelor en particulier, et plus récemment American Idol. Alors évidemment, vous posiez bien le problème tout à l'heure en disant que ce qu'on va exiger d'une série, ça va être lié d'emblée à son degré de réalisme affiché. Alors si le problème se pose avec la télé-réalité, c'est parce que dans le nom, il y a réalité, et que donc la représentativité pour les émissions de télé-réalité est obligatoire. Mais on peut imaginer, avec la persistance, le grand nombre toujours de séries prétendument réalistes hein, qui passent à l'écran, que ce type d'action en justice concerne bientôt des séries télévisées ouvertement fictionnelles, ancrées dans un lieu précis comme Baltimore. Alors le problème ne se pose pas, bien sûr, avec The Wire, puisque la question raciale n'y est pas éludée, hein, mais on pourrait imaginer dans l'avenir des plaintes hein, portant sur des séries télévisées. Ça n'est pas interdit dans la culture américaine, c'est même, je crois, assez profondément ancré, ce type de réflexe.
Si je peux juste enfin, rebondir 30 secondes, je pense encore une fois que le nombre de saisons qu'il peut y avoir dans une série me semble déterminant. Une série qui aurait deux saisons, une série qui aurait neuf saisons, bon, il y aurait une certaine attente qui serait différente. Encore une fois, c'est une question bassement arithmétique. Et d'autre part, effectivement, la thématique me semble aussi importante. Bon, dans les séries que j'ai beaucoup appréciées récemment, comme Breaking Bad, bon, la question raciale n'est pas au centre de cette série, c'est tout à fait normal. Bon, j'avais vu il y a quelques années Carnival en deux saisons. Bon, je pense pas que la question raciale ait été jamais au centre de cette série que j'avais trouvé vraiment remarquable. Idem pour Six Feet Under. Même si on évoque en introduction quelques scénettes où la question latino est bien problématisée, bon, dans Six Feet Under, la question raciale n'est pas au centre des débats et on peut considérer que c'est normal, quoi. Mais en même temps, elle n'est pas éludée. C'est-à-dire qu'on y fait référence de temps en temps, mais ce n'est pas du tout au centre de la série et on peut considérer que c'est tout à fait normal.
Oui, l'exemple que tu viens de donner est important, hein, et c'est pour ça qu'on l'a cité en introduction. On voit l'évolution des personnages par rapport au stéréotype du latino, puisqu'il y a un personnage qui récuse l'utilisation de ce stéréotype, puis qui, à partir d'un certain moment, se rend compte qu'il va pouvoir en tirer profit, au sens financier du terme, et donc le cultive d'une certaine manière. Donc l'avantage des séries télévisées qui se déroulent sur un nombre suffisamment important d'épisodes ou de saisons, ou de saison, c'est que le temps long va permettre aux scénaristes de montrer l'évolution des stéréotypes et les facteurs qui sont susceptibles de les faire évoluer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus difficilement faire au cinéma.
Oui, bien sûr. Alors, ce qui est marrant par rapport au cinéma, je fais juste une parenthèse, mais c'est que la comédie finalement française qui a cartonné cette année, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui aborde justement ces questions, mais de manière comique pour le coup.
Si on les invitait à Noël?
Comment ça, on va passer Noël chez tes parents?
On évite tous les sujets qui fâchent. Hein. Israël, le Dalaï Lama, la Burqa.
Il y aura Jackie Chan et Arafat?
Il y aura Kadhafi, Enrico Macias?
Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek.
Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot.
Et si quelqu'un balance un cliché sur les Juifs, tu laisses couler.
Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien.
Et s'il y en a un qui balance une vanne sur des Chinois, je fais quoi?
Bah, tu souris.
Je fais le Chinois, quoi, en fait.
Ah, le nuage. Suze-boule en chef, quoi.
Alors, une question sur l'influence supposée des séries télévisées sur le public, c'est aussi un sujet qui revient régulièrement. Toujours dans l'introduction, vous expliquez qu'une série est susceptible de modifier les comportements, en prenant plusieurs exemples, celui du personnel policier, par exemple, ou du personnel médical, qui finalement va avoir des retours du public qui va être différent parce qu'ils ont vu dans telle série que les flics faisaient comme ci ou que les infirmiers faisaient comme ça. Alors, par exemple, vous évoquez aussi l'influence que peut avoir une série comme 24 sur la réalité, en prenant le cas donc d'une mosquée, donc de Finsbury Park, qui est mentionnée au cours de la saison 2 lors d'une scène d'interrogatoire et qui, suite à la diffusion de cet épisode, a fait l'objet d'une attaque justement visant à extraire un groupe d'intégristes. Donc là, voilà, vous mettez quelque part en parallèle la fiction et la réalité, hein, même si évidemment on sait que c'est pas aussi simple que ça. Ma question donc par rapport à ça, Olivier, c'était finalement, est-ce qu'il y a on l'a déjà évoqué un petit peu, mais est-ce qu'il y a un devoir de représentativité des séries? Et surtout, est-ce que ce devoir peut justifier des plaintes à caractère communautaire, comme on peut en retrouver maintenant parfois par certains lobbies ou par certaines organisations américaines?
Non, je pense pas. Bon, en fait, il faut pas perdre de vue que dans le livre, on évoque donc ces questions donc de la réception, ou plutôt de l'influence que peuvent avoir les séries. L'influence que les séries peuvent avoir sur l'opinion publique sont des questions qu'on évoque simplement de façon assez laconique, à la fois en introduction et en conclusion. Par contre, le contenu du livre lui-même ne s'aventure pas vraiment sur ce terrain-là, qui est assez subjectif et assez assez difficile à appréhender. Par contre, on s'intéresse vraiment, enfin là, on fait un travail de décryptage assez, assez impitoyable, j'espère, impitoyable dans le bon sens du terme, du contenu des séries, autrement dit, du message qui est véhiculé, non pas du message qui est reçu en bout de chaîne. Hein. Donc voilà, ce que vous évoquez s'agissant de la perception des policiers ou de la perception du personnel donc médical des hôpitaux, étant donné l'engouement populaire pour les séries médicales qui a commencé donc sans doute avec urgence, hein, ça ce sont des travaux qui ont été faits par un certain nombre de sociologues avec ce qu'on appelle en anglais des focus groups, donc avec des personnes aficionados donc de telle ou telle série qui sont prêtes à répondre à des questions. Nous on s'est vraiment presque exclusivement intéressé donc non pas à la réception du message mais donc à la manière dont le message est véhiculé, quoi.
Parce que en fait, pour prolonger la question, vous évoquez par exemple dans le livre le cas de cette communauté italo-américaine qui a refusé que les acteurs des Sopranos accompagnent le maire de New York lors du Columbus Day. Donc c'est un des cas qui est évoqué. Moi, je pensais aussi à la série 24, hein, qui a créé beaucoup de polémiques, notamment on peut se souvenir des plaintes du Conseil des relations américano-islamiques sur la représentation des musulmans, hein, qui a été beaucoup critiquée. Et je me souviens que ça avait notamment amené Kiefer Sutherland à faire une déclaration officielle pour bien expliquer qu'il ne fallait pas faire d'amalgame entre la représentation des musulmans qu'il y avait dans la série et le terrorisme. Est-ce que c'est des réactions qui me... Oui, c'est épineux, mais ce sont des réactions que moi je trouve toujours déplacées. Alors c'est un sentiment très personnel. Hein,
mais je ne mettrai pas sur le même plan, juste rapidement, je ne mettrai pas sur le même plan certains stéréotypes relatifs aux Italo-Américains qui sont de fait très bien intégrés depuis très longtemps donc aux États-Unis. Hein, la célébration de Columbus Day en est un exemple assez éloquent. Et puis d'autre part les musulmans aux États-Unis, aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs. Hein, Maxime Rodinson, grand intellectuel français, donc avait évoqué la question de ce qu'il appelait l'hypersensibilité à la critique chez les minorités, et lui il s'intéressait aux juifs en fait, hein. Et effectivement il évoquait, alors il n'utilisait pas le terme de paranoïa, mais il évoquait la manière dont lorsque un certain nombre de stéréotypes, un certain nombre de formes de stigmatisation dans le discours public deviennent vraiment routinières, se développe de façon assez logique finalement une hypersensibilité à la critique. Autrement dit, parfois on va même voir des critiques là où il n'y en a pas. Si vous voulez, moi, la réaction d'un certain nombre d'idoles américains suite effectivement à la diffusion des Sopranos, on peut la comprendre si on est dans les années 1910 ou 1920. Là, on peut comprendre cette hypersensibilité à la critique précisément parce qu'il s'agit d'une population qui est nouvellement installée sur le sol américain et qui est stigmatisée. Bon, maintenant, je veux dire, l'intégration des Italo-Américains, ça remonte quand même à loin, quoi. Par contre, effectivement, pour les musulmans, j'aurais un point de vue qui serait beaucoup plus, qui serait à titre personnel beaucoup plus compréhensif, si vous voulez, puisque effectivement, c'est une la palissade que de le dire. Y a quand même un certain nombre de stéréotypes sur les musulmans et sur l'islam en général qui sont considérés comme acceptables ou considérés comme allant de soi dans une assez vaste sphère, enfin dans une assez vaste partie de la sphère médiatique et politique et puis effectivement fictionnelle, quoi.
Mais sur le cas de 24, je trouve, est intéressant parce que je trouve qu'il y a peut-être une erreur de lecture ou en tout cas une lecture à trop court terme, hein, parce qu'on voit bien maintenant qu'on a une vue d'ensemble de la série, même si elle n'est peut-être pas tout à fait terminée, que au final, les terroristes présentés dans la série sont musulmans, mais sont aussi slaves, sont russes, sont allemands, sont français, parfois anglais, et sont surtout américains. Hein, je le disais, les premiers corrompus dans la série, ce sont les membres du gouvernement américain. Bref, moi, je trouve qu'il y a une représentation qui est finalement assez variée. C'est pour ça que je trouve le livre est intéressant. C'est que vous faites ce décryptage et cette lecture en prenant l'exemple d'une scène en particulier, mais en ayant une lecture à plus long terme, quoi. Et finalement, une série, et le cas de Mad Men, il est très intéressant à ce titre, c'est qu'elle ne s'analyse pas sur juste une saison où un personnage qui va être peut-être insultant pour une communauté, mais finalement c'est tout un ensemble et il faut savoir aussi lire cette façon de montrer les choses et la décrypter.
Mm-hmm. Mais les séries, ce qui est intéressant aussi de noter, hein, c'est que les séries de plus en plus tiennent compte des réactions des internautes, des réactions qu'on peut trouver à droite et à gauche chez les critiques pour modifier, alors pour 24 c'est intéressant et c'est amusant d'employer l'expression en temps réel, les contenus, oui, en fonction et dans le but donc de ne pas vexer qui que ce soit. J'ai bien aimé l'expression qu'empruntait Olivier à, c'était Maxime Robinson, peut-être, mmh, que, peut-être que je me trompe, d'hypersensibilité, mais dans certains cas, il est évident qu'on est tenté de plutôt parler de susceptibilité, si on veut être un peu plus cynique, peut-être, et cette susceptibilité, vient de la conscience qu'ont les uns et les autres que les représentations, même ouvertement fictionnelles, télévisées, peuvent avoir un impact sur la vision des choses dans la réalité et que l'identification fonctionne à fond. Ce n'est pas un hasard si les policiers se sentent visés par les séries policières, puisque quasiment de toute évidence, en majorité, c'est, semble-t-il, ce qu'ils regardent en priorité. Donc on peut imaginer, sans employer de catégorisation simpliste, que certaines séries sont à destination du public noir également, et que, on l'a rappelé tout à l'heure avec le personnage que vous évoquiez, de jeune femme noire qui tout d'un coup intervenait de manière un petit peu incongrue, voire irréaliste dans Friends, on peut imaginer que les concepteurs des séries prévoient, dans le but de ménager les susceptibilités, des pas en avant de ce qui est d'actions qui doivent ressembler à des démarches qui iraient dans le bon sens en faveur des minorités, ce qui serait une manière de montrer patte blanche ou encore une fois de se proclamer non raciste parce qu'on sait que ça peut être un critère de rejet chez les spectateurs. Et alors, ce phénomène d'identification et ce phénomène d'amalgame entre la fiction des séries télévisées en particulier et la réalité, c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps. On sait, pareil, enfin, tout le monde a entendu parler de l'anecdote fameuse du fameux Larry Hagman, donc qui jouait JR, hein, le fameux JR de Dallas, qui ne pouvait pas sortir dans la rue sans se faire invectiver, sans se faire traiter de méchant. Et alors, on a vu le même phénomène récemment cultivé, hein, dans le cadre de la campagne pour les midterms aux États-Unis, puisqu'il y a un candidat du Kansas qui a utilisé dans un spot publicitaire la voix de Kevin Spacey dans House of Cards pour critiquer son adversaire en prétendant que, comme dans House of Cards, il se prétendait candidat indépendant, mais qu'il était en fait à la botte des démocrates. Donc il y a un phénomène d'amalgame qu'on ne peut pas nier, qu'on peut d'autant moins nier qu'on essaye de plus en plus, me semble-t-il, de l'utiliser à des fins politiques et très pragmatiques. Donc.
Alors, une question, on a parlé là de racisme, une question qui me taraude depuis un certain temps, qui n'est pas facile. Voilà, je me demande si, sur le plan diégétique, hein, je précise bien, on peut taxer une série d'être raciste. Alors, il y a un exemple très récent sur la saison 2013-2014, une série qui s'appelait Dads, qui était donc diffusée sur la Fox, qui était créée par Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy, mm-hmm, qui était donc qui a fait une forte polémique, série jugée offensante par le Media Action Network for Asian Americans, qui a demandé à ce que plusieurs scènes du pilote soient retournées, et notamment une scène qui a beaucoup fait parler, dans laquelle on voyait une assistante asiatique qui se déguisait en héroïne de Sailor Moon. Donc voilà, on, mm-hmm, était en plein dans un stéréotype, une scène qui a finalement été conservée, hein, par la Fox, et elle s'est retrouvée dans le montage final qui a été diffusé de la série. Alors, moi, c'est encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui me pose toujours problème, à savoir, est-ce que finalement, on peut considérer que cette série n'est pas bonne, n'est pas drôle, et peut être vulgaire, maladroite, etc. Mais après, j'ai du mal à comprendre comment on peut taxer finalement une série d'être raciste, en tout cas sur le plan diégétique. Comment on qualifie finalement une série de raciste et comment on distingue une série raciste de non raciste? Est-ce que voilà, une série non raciste, c'est une série qui représente toutes les ethnies de manière parfaitement égale et équilibrée? Enfin voilà, finalement, ça reste assez compliqué à définir, sachant que donc il y a un cadre de censure qui est défini par la FCC, donc la Federal Communication Commission, donc qui définit voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on peut montrer, la violence, le sexe, l'obscénité. Donc voilà, il y a tout un cadre légal qui est défini. Sébastien, est-ce que par exemple le cas du blackface que vous évoquez pour Mad Men, il est intéressant parce que là on peut considérer bah, évidemment cette pratique était raciste, mais du point de vue de la production, parce que bah, ça impliquait déjà une privation de travail, c'est-à-dire qu'on prenait des blancs qui jouaient des personnages noirs, donc ça privait déjà quelqu'un de ce poste-là, hein, au-delà de toute la signification du geste, de toute l'historique du blackface. Voilà, bon, question pas facile, mais est-ce qu'on peut taxer pour vous, tout simplement, une série d'être raciste ?
Assez clairement, non. À mon avis, il faudrait vraiment aller très loin dans l'outrance et la provocation et le manque de prise de distance avec les propos qui sont tenus ou les gestes qui sont faits par des personnages qui restent des personnages fictionnels pour qu'on puisse qualifier une série de racistes. Donc la question et la séquence de Mad Men le montre bien, c'est une question de contexte et c'est une question de cadre. C'est-à-dire que le but de la séquence de Mad Men, c'est de montrer que chez les publicitaires de Madison Avenue dans les années 60, une performance en blackface, ça ne posait de problème à personne, en tout cas ça ne risquait quasiment absolument pas d'être ressenti comme une représentation raciste. Et donc l'intérêt de cette scène, c'est de montrer la réaction des personnages comme liée à une époque et un contexte particulier. Et ce raisonnement vaut pour la réception de toute série ou de tout film qui pose la question raciale. C'est-à-dire que la séquence de Mad Men montre bien que, en fonction de l'endroit où on se trouve, en fonction du public auquel on s'adresse, et surtout en fonction de la manière dont on va introduire, déconstruire, jouer avec le stéréotype, on s'approche plus ou moins de la possibilité d'une accusation de racisme, mais plus on met cela à distance, plus on superpose les niveaux d'analyse possibles, et le blackface pour ça est symptomatique de l'histoire du stéréotype du noir de l'esclave noir dans la culture américaine, puisque le blackface, nous l'avons rappelé, a tout un tas de couches de sens, c'est-à-dire qu'il a d'abord été ressenti et pratiqué comme un phénomène raciste, puis il s'est transformé en revendication par la population blanche du nord des États-Unis d'une égalité de classe avec leurs frères noirs. Donc toute cette histoire complexe, évidemment, si le spectateur ne la connaît pas, il risque de trouver la scène de Roger Sterling en blackface raciste, et malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Donc la séquence, nous avons essayé de montrer qu'elle posait beaucoup mieux la question que cela, et que donc elle ne méritait pas une telle réaction un petit peu épidermique, hein, pourrait-on dire, mais on prend toujours le risque d'être mal perçu et d'être mal compris. Donc je parlais tout à l'heure de cadre esthétique et de définition du cadre, de rappel du cadre dans lequel on s'insère par des signes qui sont censés ne pas tromper le spectateur, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est l'histoire des caricatures de Mahomet. C'est-à-dire que les caricatures de Mahomet sont dans Charlie Hebdo. Est-ce que si on considère le lectorat de Charlie Hebdo et sa tolérance au degré d'outrance dans les stéréotypes, c'est raciste? C'est une attaque, c'est une agression. Je ne pense pas.
The sun shines bright on the old Kentucky home. 'Tis summer and the darkies are gay. The corn tops ripe and the meadows in the bloom, while the birds make music all the day.
En fait, en langue anglaise, le terme de racisme ou l'adjectif raciste, donc racism ou racist, me semble encore plus souvent utilisé qu'en langue française. Autrement dit, il faut enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un certain nombre de spécialistes très sérieux de ces questions qui eux-mêmes sont très très prudents vis-à-vis de l'utilisation des termes racisme ou raciste. Bon, on est en 1971, me semble-t-il, quand Claude Lévi-Strauss, déjà en 71, hein, il y a plus de 40 ans, évoquait la manière dont le terme de racisme lui-même était constamment galvaudé. Je pense en particulier à un historien comme Gérard Noiriel qui n'a de cesse d'insister sur la manière dont, dans le débat public, il faudrait davantage utiliser des termes comme stigmatisation, comme préjugé, ou comme stéréotype. C'est ce qu'on essaie de faire. Ça ne veut pas dire que le racisme en tant que tel n'existe pas. C'est pas parce qu'on est, c'est pas être naïf que suggérer l'utilisation de termes comme stigmatisation ou préjugé, mais en tout cas, c'est être beaucoup plus prudent, quoi, si vous voulez. Je pense que un certain nombre de séries justement jouent elles-mêmes du galvaudage de ce terme de racisme et de raciste. Je pense en particulier à une série comme Six Feet Under, où alors je sais plus quel épisode, quelle saison, hein, mais à un moment donné, Nate, donc qui n'est pas du tout raciste, hein, pour le coup, qui est quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui me semble-t-il, il n'y a jamais aucune preuve qu'il ait des préjugés. Nate, à un moment donné, dit quelque chose, je sais plus, des latinos en général, enfin bref, et puis Federico lui dit « This is so fucking racist ». Et en fait, ce qui est intéressant dans cette réaction en fait, de Federico, qui donc, encore une fois, illustre vraiment cette hypersensibilité à la critique dont je parlais il y a quelques minutes, il me semble que chez les concepteurs de la série, il y a justement cette illustration du complet galvaudage du terme de racisme ou de racisme, quoi. Donc là, effectivement, il faut être très très prudent vis-à-vis de l'utilisation de ce terme. Et encore une fois, dire ça, c'est pas non plus être naïf ou considérer que le racisme n'existe pas. Mais c'est pas en pointant du doigt le racisme ou certains comportements ou certains discours racistes que l'on analyse le monde social, à mon avis.
Bien sûr, oui, tout à fait. Bah, moi, je me fais l'écho vraiment de ce qu'on peut lire et entendre dans certains médias. Oui, évidemment, là, on a une approche, notamment dans le livre, qui est beaucoup plus fine, évidemment, qui analyse les choses et qui essaie de les décrypter. Alors, une autre question, un point qui est aussi très intéressant dans votre livre, je trouve, c'est toute la partie utopique. Alors, il y a plusieurs exemples. Vous évoquez le cas de Amsterdam, hein, donc avec un H dans la série The Wire. Donc, cette idée d'un quartier où la consommation de drogue est légalisée et encadrée, hein, c'est un passage très important de la série. Il y a aussi dans Orange is the New Black, là c'est justement l'objet de votre étude, de votre analyse de scène, hein, l'idée d'une élection sur un mode racial, à savoir que donc les blanches élisent des blanches, les noirs élisent des noirs, les latinos élisent des latinos, et donc là il y a avec un croisement des critiques des unes envers les autres, hein, on retrouve tous les stéréotypes croisés. Et puis il y a un autre cas que vous évoquez mais qui est intrinsèque à la série, c'est Oz, hein, évidemment, le Emerald City, hein, c'est une unité pilote créée justement spécialement pour y faire se côtoyer les plus violents criminels et puis de simples délinquants. Enfin voilà, l'idée d'un quartier comme ça où les criminels peuvent se côtoyer et circuler plus ou moins librement, même si c'est évidemment encadré. Je pensais évidemment à un dernier cas qui était, on peut parler d'utopie, hein, le cas du président noir dans 24, à l'époque ce n'était pas encore le cas. Bon voilà, ça c'est un cas aussi, Sébastien, qui est intéressant. Finalement, plutôt que de toujours vouloir coller à la réalité, hein, je reviens à cette notion qui revient sans cesse aujourd'hui dans les discours qu'on peut entendre sur les séries, est-ce que les séries ne peuvent pas éveiller les consciences par l'utopie? C'est aussi un bon moyen de fonctionner.
Si, bien sûr. Les cas que vous avez évoqués sont tout à fait parlants de ce point de vue-là. Il y en aurait d'autres. Hein. On peut considérer qu'un certain nombre de séries utilisent ce que j'appelle, moi, des dispositifs expérimentaux, c'est-à-dire qu'elles utilisent le principe de personnages qu'on va pouvoir suivre et voir évoluer sur un temps défini et dans un cadre défini à l'avance, pour, à partir de conditions de départ, ce qu'on pourrait appeler des règles du jeu, essayer de voir comment les choses évoluent et donc, d'une certaine manière, comment se font les sociétés et comment fonctionnent les sociétés. Donc bien souvent, dans les séries qui mettent en place un dispositif expérimental, l'expérience est avant tout de nature sociale, c'est-à-dire qu'on essaye d'examiner selon quelles modalités les gens vont construire des relations avec d'autres gens, et si l'on fait intervenir la différence ethnique dans les règles du jeu, eh bien, l'expérience sociale prend un caractère d'expérience de relation raciale. Alors, l'exemple le plus connu, certainement, c'est Lost, évidemment, hein, qui utilise le microcosme insulaire pour fonder cette expérience sociale, mais on a vu également dernièrement des séries reprendre ce principe de d'isolement de personnages dans un lieu précis, donc de huis clos fictionnels, pour à partir de conditions de base parfois violentes, examiner la manière dont évoluent les comportements. Je pense en particulier à Under the Dome, hein, adapté de Stephen King, qui est apparemment assez regardé. Et un exemple beaucoup moins connu, Siberia, qui est une série qui, sur le même principe, hein, singe une émission de télé-réalité du type Koh-Lanta, Survivor, pour la version américaine, en déplaçant des candidats au fin fond de la Sibérie, dans un cadre qui s'avère être, encore une fois, celui d'une expérience sur les comportements humains. Donc, ce que nous avons essayé de montrer à travers l'exemple le plus pertinent en la matière, je crois, c'est celui que vous avez évoqué, hein, celui de Orange is the New Black, c'est que les séries ont très souvent cette vocation expérimentale qui leur donne, sous la protection de la fiction, si je puis dire, le droit de formuler des hypothèses et de laisser les spectateurs formuler un jugement sur ce qui pourrait marcher et ce qui, évidemment, ne pourra jamais fonctionner. Hein, donc oui, l'utopie a complètement sa place dans le type de série que nous avons analysé et dans d'autres.
Let's talk about healthcare, Mackenzie.
Oh, Amanda, I'd rather not. It's not polite.
Well, did you see that wonderful new documentary about the best sushi in the world?
Of course, now that I'm vegan, I didn't enjoy it as much as I might have
you
before.
You know, I just don't have the time. Chad and I have our yoga workshop, then wine tasting class, and then we have to have really quiet sex every night at 9.
Et alors Olivier, ce qui est terrible, et c'est là que les scénaristes jouent aussi avec nous, c'est que finalement on a une espèce d'impression de dépiper à l'avance et d'échec systématique de cette utopie. Dans le cas de Orange is the New Black, vous citez ces phrases de Healey qui dit voilà, le but ce n'est pas de leur donner du pouvoir, c'est comme quand ta mère te laisse le choix entre un bain avant ou après le dîner, tu crois avoir le choix mais à la fin t'es mouillé dans les deux cas. Ce qui est vraiment une belle phrase et qui montre bien que de toute façon on vous laisse entrevoir une solution dans The Wire, l'idée d'une consommation de la drogue encadrée, légalisée, finalement vraiment une utopie, et on se rend compte qu'au final ça ne fonctionne pas quoi. Malgré tout, il y a cette espèce de retour de bâton qui est toujours assez
terrible. Alors juste sur The Wire, dans un premier temps, il ne faut pas perdre de vue que en fait l'expérience de Amsterdam renvoie à une véritable, enfin, à un épisode historique local de la vie de Baltimore, où en fait au début des années 80, un chef de la police locale avait essayé effectivement d'introduire une expérience, une expérimentation très très semblable à celle d'Amsterdam. Et en fait, ça avait créé un tollé national quelques années après l'introduction de la guerre contre la drogue, donc par Ronald Reagan. Donc effectivement, là, on est dans l'utopie, mais en même temps, il y a vraiment un parallèle historique à faire, dont s'est clairement inspiré David Simon. Hein. Et sur Orange is the New Black, ce qui est intéressant dans ce que, enfin, en évoquant ces questions-là, je me rends compte à quel point finalement, dans la scène qu'on décrypte de Orange is the New Black, c'est presque sans doute le seul moment, où on voit véritablement du racisme à l'état pur, quoi, qui s'exprime librement. Quoi. Ça, c'est assez intéressant. Effectivement, là, on peut clairement parler de racisme à l'état brut. Et bon, je pense aussi que S'agissant d'expérimentation qui est organisée dans le cadre de cette consultation donc électorale, enfin moi il me semble que c'est surtout, si vous voulez, une manière d'évoquer de façon implicite le déficit démocratique à l'extérieur des murs de la prison. Autrement dit, cette sorte de mascarade électorale sur une base ethnique qui est organisée dans la prison me semble renvoyer finalement à... Bon, je pense qu'on cite dans le bouquin des propos de Michael Moore dans le document de Roger and Me. Là, bon, effectivement, le bipartisme aux États-Unis et la manière dont, encore plus d'ailleurs maintenant qu'au moment de Roger and Me, même beaucoup plus, les grandes entreprises donc financent les deux parties souvent de façon, enfin parfois de façon égale d'ailleurs. Hein, quand vous parliez de dés qui sont pipés, effectivement, on est en plein dedans. Et effectivement, l'expérience. L'expérimentation organisée à l'échelle locale, donc de la prison, me semble-t-il, hein, renvoie effectivement à ce qui est véritablement une réalité nationale, quoi.
Et je pensais aussi au cas que vous évoquez également de Boss, où quelque part on nous laisse entrevoir une possibilité de multiculturalisme, et comme vous l'expliquez, symboliquement cette possibilité là est ensevelie pour de bon, quoi. Il y a cette idée que on est dans une idée qui peut émerger, et finalement on se rend compte que ça ne peut pas aller au bout. Sébastien, c'est intéressant aussi parce que finalement là on se rend compte à quel point la série, et notamment parce que c'est un art du temps, une série peut durer très longtemps, finalement de ce point de vue-là, ça peut vraiment apporter quelque chose, à savoir qu'une série peut expérimenter, parce que vous employez ce terme-là, peut imaginer une situation, peut créer comme ça une expérience fictionnelle, mais qui peut peut-être se concrétiser plus tard dans la réalité. Enfin, en tout cas, donner des idées à une réalité qui pourrait venir se nourrir de cette fiction.
Oui, bien sûr, il y a une force de proposition évidente, hein, même si on expérimente tout un tas de choses différentes, hein, vu le nombre de séries qui passent, qui sont regardées. Il y a également une forme d'idée que l'imagination serait au pouvoir à travers les séries télévisées. Maintenant, dans les exemples qu'on vient d'évoquer, ce qu'elle critique surtout, c'est quasiment l'inverse. C'est le fait qu'on donne aux gens l'utilisation d'avoir le choix, alors qu'en fait, on leur propose des solutions qui, d'avance, sont à leur désavantage.
Alors, une dernière question pour finir. Un cas, vous l'évoquez avec The Wire, qui me paraît vraiment symptomatique, c'est celui de David Simon, hein, qui... C'est un cas vraiment intéressant parce que lui a consacré quasiment toute son œuvre jusqu'à présent à la question noire. À travers son œuvre à la fois littéraire et à travers ses séries, il a commencé à travailler sur Homicide, donc après avoir écrit un livre sur la question, il a travaillé sur The Corner, qui était une mini-série qui a précédé The Wire, et puis ensuite, là, plus récemment, on l'a vu sur Tremé. Mm-hmm. Donc voilà, c'est, finalement, est-ce que là, on n'a pas le cas... de l'auteur et du showrunner qui a marié, qui a réussi à répondre de la manière la plus significative à la question noire. Et alors vraiment, Sébastien, ce que je trouve intéressant dans le cas de David Simon, c'est qu'il n'oblitère pas pour autant la population blanche. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'idée d'un rapport de vie où les gens se côtoient, ou en tout cas sont amenés à se croiser. On n'est pas dans l'idée du All Black Movie où finalement... je pense par exemple là récemment au cas du film de Céline Sciamma, Bande de filles, où là on était vraiment dans l'idée de faire un film noir avec finalement très peu d'acteurs blancs, de personnages blancs, ou plutôt on recourait à certains stéréotypes. Là chez David Simon, il y a vraiment l'idée de mettre en concurrence et de mettre en cohésion différentes populations, noires, blanches, vietnamiennes par exemple aussi dans la dernière saison de Tremé. Donc c'est je trouve une façon très très fine et très intéressante d'aborder la question noire.
Oui, alors déjà, il y a au moins un contre-exemple, hein, si l'on peut dire, qui est une série antérieure, qui est Generation Kill, sur le quotidien d'un bataillon de Marines, lors de la première campagne d'Irak, où je n'étais pas souvenir d'avoir aperçu un seul personnage noir, mais il faudrait que je revoie la série qui fait, qui n'est pas très longue, mais hein, qui fait 7 épisodes. Par contre, C'est une série qui aborde, dans le cadre du quotidien des soldats, la question des relations raciales à travers des personnages de latinos, des personnages d'origine mexicaine, et d'une réflexion sur le mal qui est fait à une civilisation qui est présentée par l'un des soldats comme millénaire, hein, dont l'un des soldats rappelle donc qu'elle est millénaire et que donc elle mérite tout autant d'être respectée que, évidemment, la civilisation américaine, si tant est qu'on puisse employer ce terme, qui est bien sûr beaucoup plus récente. Alors, pour revenir sur la question de la question noire, dans l'œuvre de David Simon. Bon, j'ai surtout travaillé sur The Wire, à vrai dire, hein, donc je ne m'avancerai pas à affirmer quoi que ce soit concernant les autres séries. Mais j'ai plutôt l'impression que The Wire présente une situation où des Noirs occupent des situations précédemment réservées à des Blancs, et vice-versa. Donc, je ne suis pas persuadé que ça soit une série qui soit exclusivement sur la relation entre la population blanche et la population noire. C'est certainement une série qui montre un état des sociétés où cette question, j'allais dire ancestrale, le terme est un petit peu trop fort, a évolué au point de modifier les relations et de susciter des comportements qui, peut-être, font moins intervenir qu'auparavant le clivage noir-blanc. Alors là, encore une fois, j'avance à pas mesurer, c'est vraiment une impression de ma part que je décris, parce que cette question-là, par rapport à The Wire, je ne l'ai jamais posée en ces termes. C'est-à-dire que nous sommes interrogés sur la manière dont The Wire abordait la question raciale, mais je ne me suis jamais demander si David Simon apportait une réponse à la question noire. La manière dont Baltimore est représentée me semble indiquer qu'on ne peut plus penser la question noire comme il y a quelques années. Mais encore une fois, c'est un ressenti là, que je vous présente avant tout.
Ce qui est intéressant dans The Wire, c'est qu'on a donc noir et blanc, mais on a aussi donc des Américains de souche, on pourrait dire, des Irlandais, des Polonais, des Grecs, des Italiens. Donc il y a, est-ce qu'on n'est pas finalement vraiment dans cette idée que vous évoquez dans le livre de salad bowl, c'est-à-dire d'une mosaïque culturelle dont les ingrédients seraient juxtaposés sans, voilà.
Là, simplement, il ne faut pas perdre de vue que à la fois, enfin les deux villes qui sont donc dépeintes dans The Wire et puis dans Chemet, c'est effectivement Baltimore et la Nouvelle-Orléans, deux villes qui sont en majorité noires depuis quand même un certain nombre de décennies. Autrement dit, l'ambition affichée de David Simon d'être extrêmement réaliste dans son traitement fictionnel rend nécessaire l'omniprésence des Noirs pour des raisons, encore une fois, strictement démographiques. Effectivement, alors nous, quand on a fait le bouquin, on a eu du mal. Ça n'a pas été facile de trouver une scène dans The Wire qui problématise vraiment la question raciale, quoi.
Et c'est vrai.
La scène de The Wire, je la connais par cœur depuis quelques années, enfin la scène qu'on a prise là, mais bon, j'ai revu The Wire en entier il y a quelques temps, et effectivement, le multiculturalisme et puis la présence des Noirs fait tellement partie de l'air qu'on respire, que d'une certaine façon, ces questions-là sont presque pas problématisées, si vous voulez, puisque effectivement, ça fait partie de la vie, quoi. Je pense qu'une des seules fois où vraiment c'est problématisé de façon quasiment systématique, c'est lorsque le candidat à la mairie de Baltimore, de Carcetti, là, qui est d'origine italienne, qui est blanc, se pose la question de savoir, voilà, comment est-ce que je vais faire pour devenir maire d'une ville qui a une majorité noire. Et là, effectivement, lorsque on a des débats au moment de la campagne des municipales de Baltimore, cette question-là est clairement posée. Et alors, elle est posée de façon assez rigolote, je trouve, au début de la série, lorsque Johnny, donc l'alter ego de Bob, se fait arrêter par la police. Il est contrôlé par la police et il dit "Is this because I'm white?" Donc ça, il dit vraiment "Est-ce que c'est parce que je suis blanc que vous m'arrêtez?" Autrement dit, dans une situation où effectivement on a affaire à une ville qui a une majorité de noirs, lui-même endosse le rôle un petit peu stéréotypé du membre de la minorité ethnique, à savoir ici les blancs, quoi. Et effectivement, bon, il y a un certain nombre de travaux très sérieux sur cette question. Les blancs eux-mêmes ne prennent conscience de leur identité raciale blanche que quand ils sont placés dans une situation de minorité. Et c'est le cas effectivement de Johnny là dans la courte scène que je décris. Et effectivement, cette question qu'il pose là au policier, is this because I'm white, elle est vraiment, c'est assez humoristique pour le coup. Hein.
Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Vous pouvez donc retrouver ce livre, La question raciale dans les séries américaines, aux presses de Sciences Po, au prix public de 20€. Je remercie donc beaucoup ces auteurs, donc Olivier Estève et Sébastien Lefay, de m'avoir accompagné pour cette discussion.
Merci à vous. Merci.
Vous pouvez nous retrouver sur le blog Des séries et des hommes. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse libé.feuilleton@gmail.com. Vous avez la page Facebook, le compte Twitter, si vous avez des remarques ou des questions. À très bientôt.